science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, notre question est « Ne pense-t-on qu'avec sa langue ?» On le sait, Einstein a parlé tardivement, au point que ses parents s'en étaient inquiétés. À 9 ans, il s'exprimait encore difficilement. Il préparait sa phrase en remuant silencieusement les lèvres, retardait autant que possible l'instant de lui faire franchir le seuil de l'expression, puis tout à coup, l'énonçait à voix haute. Il eut l'occasion bien plus tard de s'expliquer sur son rapport au verbe avec le mathématicien français Jacques Adamard, auquel il écrivit ceci. Les mots et le langage écrit ou parlé ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont certains signes ou des images plus ou moins claires. Les éléments que je viens de mentionner sont, dans mon cas, de type visuel et parfois moteur. Il arrive même que ma pensée soit de type musculaire. Fin de citation. Mais sommes-nous bien certains que toute pensée, qu'elle soit scientifique ou d'une autre nature, puisse ainsi s'émanciper totalement du langage, plus précisément d'une mise en langue plus ou moins élaborée? Cette question étant sans doute trop vaste pour nos 3/4 d'émission, réduisons-la à cette autre. De Kafka à Nabokov, en passant par Kundera et beaucoup d'autres, quel rapport les grands écrivains entretiennent-ils avec leur langue maternelle ou leur langue d'adoption? Pensent-ils toujours en elle et seulement par elle? Et quel rapport nourrissent-ils avec la traduction de leurs œuvres? Et, le cas échéant, avec l'autotraduction? Pour répondre à ces questions difficiles, j'ai invité Maya Rouchkova. Bonjour.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes juriste dans l'édition, agent littéraire à Londres et vous êtes polyglotte.
Oui.
Alors, on va être précis puisqu'il s'agit d'une émission scientifique. Combien de langues parlez-vous?
5.
Lesquelles?
Le français, le tchèque, l'anglais, l'allemand et le russe.
L'ordre est arbitraire ou...
Pas du tout, non, complètement... Enfin, pas arbitraire du tout.
Et est-ce qu'il y a, parmi ces langues, il y en a une que vous pourriez qualifier de langue maternelle?
Plusieurs. J'ai des langues parentales, le français et le tchèque. Ce sont les deux langues dans lesquelles j'ai grandi. Ensuite vient s'ajouter l'allemand, dans lequel j'ai été, parce que c'est la langue que j'ai, dans laquelle j'ai été scolarisée. Et ensuite vient s'ajouter l'anglais que j'ai appris bien plus tard.
Et comment est-ce qu'on devient polyglotte? Par
hasard. Dans mon cas, par hasard. Par la force de par les choix qui sont faits par nos parents, par les hasards de notre histoire.
Ça ne présuppose pas un goût pour les langues?
Je pense que j'ai un goût pour les langues parce que je suis polyglotte de naissance. Je pense que c'est pour ça que j'ai appris à m'intéresser aux langues et à leurs incohérences et aux différentes sensibilités qu'elles peuvent m'apporter.
Alors, il se dit que les langues que vous les parlez sans accent, ce qu'on peut vérifier déjà avec le français. Alors, est-ce que ça se travaille, ça, le fait de ne pas avoir d'accent?
Est-ce que ça se travaille de ne pas avoir un accent? C'est une question de bain, je pense. Il m'est arrivé, il y a quelques semaines, une chose intéressante. J'étais invitée à dîner avec des Anglais et la personne assise en face de moi n'avait pas deviné que je n'étais pas anglaise. Et il n'avait pas entendu d'accent dans mes phrases. Et donc, c'était très curieux parce que c'est comme si mes autres langues ne protestaient plus quand je m'exprimais dans une langue autre que mes langues parentales ou maternelles. Et pour avoir un accent, il faut avoir au moins 2 langues. Alors quand on en a 5, c'est peut-être encore plus compliqué. Mais Derrida avait cette très jolie phrase. Il disait « Avoir un accent, c'est être en flagrant délit de soi-même ». Mais alors du coup, quand on n'a plus d'accent...
Vous êtes en accord plusieurs fois avec vous-même.
On est en accord plusieurs fois avec nous-mêmes, ou alors c'est une imposture plusieurs fois avec soi-même.
Vous pourriez être une espionne.
Pourquoi pas?
Dans plusieurs pays.
Dans plusieurs pays.
Dans quelle langue est-ce qu'on rêve quand on est polyglotte?
Dans plusieurs langues. On a plusieurs personnages dans nos rêves qui parlent plusieurs langues.
Donc ils sont polyglottes.
Eux aussi.
Et quand une polyglotte comme vous parle avec un ou une autre polyglotte, quelle langue parle-t-il?
Une sorte d'espéranto privé. quand un polyglotte parle avec un autre polyglotte et que les langues parlées par chacun des interlocuteurs se retrouvent, eh bien, ça crée une sorte de métalangue, une troisième langue, puisque le dialogue va être truffé de références linguistiques.
Que personne ne peut comprendre, finalement.
Que personne ne peut comprendre.
C'est un langage codé.
C'est un langage codé, exactement.
Alors, je vous invite pour qu'on parle de cela, évidemment, mais aussi du rapport entre la langue, le langage et la pensée. Et je voulais avoir votre interprétation de cette phrase de Paul Valéry qui a écrit « Si le langage était parfait, l'homme cesserait de penser ». Autrement dit, est-ce que ça signifie que c'est dans les imperfections du langage que vient se nicher, on pourrait dire, le développement d'une pensée ?
Absolument. Absolument. Et ça, on s'en rend compte quand on est... Enfin, on peut s'en rendre compte plus facilement quand on parle plus d'une langue. Parce que la mise à distance d'une langue grâce à une autre peut nous donner une nouvelle sensibilité, un nouveau regard sur les, comme je disais tout à l'heure, sur les incohérences du langage. D'ailleurs, c'est pas un hasard si... Enfin, peut-être que c'est un hasard. Alors, en tout cas, c'est une observation. C'est que les écrivains du... Enfin, le théâtre absurde en français est le produit d'auteurs dits exophones, c'est-à-dire des auteurs qui écrivaient dans une langue autre que la leur.
Comme Beckett,
comme Adamov, comme Ionesco. C'était des auteurs qui peut-être mettaient des accents sur les intelligibilités différentes qu'ils pouvaient entendre et qu'ils étaient peut-être les seuls à pouvoir entendre en français. Et je pense que le support que va me donner par exemple ma langue maternelle ou parentale, enfin la langue dans laquelle je m'exprime spontanément, cette langue spontanée va déterminer les choix qui me sont imposés par cette langue. Alors que le fait d'avoir une langue concurrente, donc une deuxième, une troisième, une quatrième langue, va me permettre de saisir les contraintes auxquelles je suis soumise sans que je puisse le savoir.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait appeler, si on reprend cette phrase de Valéry, un langage parfait ? Un langage qui n'aurait pas d'ambivalence ?
Oui, ce serait terrible. Ce serait un langage avec lequel on arriverait toujours à aller au bout de ce que l'on a envie de dire. Il n'y aurait pas de conversation possible.
Ça veut dire que parler, c'est toujours un peu jouer avec les mots, finalement.
Oui, c'est essayer de se rapprocher, c'est essayer de rapprocher le mot de la chose, mais un langage parfait, ce serait une coïncidence pure et parfaite entre ce que l'on pense et ce que l'on veut dire, entre ce que l'on voit et ce que l'on dit, et ce serait terrifiant. Mais on ne serait pas là pour en parler.
Dans ce même texte que de Paul Valéry, je viens de citer, il y a d'autres formules assez étonnantes. Il dit, par exemple, à mesure que l'on s'approche du réel, on perd la parole.
Oui, il a raison.
Il dit aussi, il importe de s'exercer à la pensée sans langage. Il dit, tout est prédit par le dictionnaire. Il n'y a pas de mots isolables. Écrire ou penser avec soin est un effort contre le langage moyen. Donc l'idée que le langage moyen charrie avec lui des espèces de façons de dire automatiques, d'a priori clandestins, qu'il faut débusquer pour pouvoir penser justement.
Oui, il dit, il n'y a pas de pensée sans langage.
Il importe de s'exercer à la pensée sans langage. Ouais. Alors, un peu comme Einstein le dit dans le chapeau que j'ai lu. Einstein pensait, dit-il, en tout cas, en mettant son corps en situation, en essayant de deviner par des images mentales comment son corps se comporterait dans telle ou telle situation qu'il a imaginée.
Parce que je peux tout à fait imaginer exercer une pensée sans langage. Un langage sans pensée, ça oui. Ça,
c'est... Un langage sans pensée.
Oui, c'est
tous les jours.
C'est fréquent, oui. oui, je pense que la phrase de Paul Valéry peut prendre toute sa dimension dans un contexte multilingue. Absolument, oui, parce que le fait d'avoir une deuxième langue en fait me libère de la langue que je parle spontanément quand je pense dans cette langue. C'est-à-dire c'est une nouvelle voix qui nous une sorte de deuxième voix intérieure qui me donne un nouveau regard extérieur.
Mais est-ce que la langue dans laquelle vous pensez dépend du sujet que vous traitez ?
Absolument, oui.
Par exemple, si c'est de la philosophie, ça sera quoi ? De l'allemand ?
oui, certains pensent que l'allemand est la langue de la philosophie. Non, ce sera peut-être le français. Je trouve que le français pense avec une précision syntaxique très particulière qui permet de penser, oui.
Alors justement, grâce à vous, j'ai découvert ce que disait la traductrice en français de Kundera, qui écrit « Au fil de la traduction, j'ai pris conscience que Milan Kundera écrivait en français bien avant qu'il n'émigre en France. Il écrivait déjà en français dans ses romans tchèques. Oui. Son écriture tchèque pense avec la précision syntaxique française.
Oui.
Donc ça veut dire que traduire, dans ce cas-là, ça veut dire mettre de la précision là où il n'y en a pas vraiment.
Traduire, mettre de la précision.
Oui, puisque... Oui.
Dans le cas de la traductrice de Kundera, je pense qu'on peut même parler d'une restauration, puisque, et non pas de traduction, parce qu'elle a dû... C'était un conditionnel. Elle devait penser au conditionnel. Comment Kundera écrivait-il, aurait-il écrit cette phrase lorsqu'il écrivait en tchèque? Ou alors, comment aurait-il écrit cette phrase s'il l'avait écrite en tchèque? Et donc, la traduction, là, demande de refaire le chemin parcouru par l'auteur pour essayer de dire autrement dans la langue de la traduction, ce qui n'a pas pu être dit autrement dans la langue de départ.
Et qu'en aurait pensé Kundera lui-même ?
Je m'abstiens de... Je m'abstiens d'imaginer ce que Kundera en aurait pensé, mais Kundera représente, est un exemple parmi tant d'autres d'écrivains du XXe siècle qui ont dû changer de langue par la force des choses et de l'histoire.
Mais est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce qu'on peut rompre avec une langue qu'on parle de façon presque maternelle? Est-ce qu'on peut être délogé de soi-même d'un point de vue linguistique?
Oui, on peut être délogé de sa langue, on peut être déraciné de sa propre langue. Et d'ailleurs, cet exil ne passe pas forcément par un exil géographique. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont exilés de leur langue sans pour autant être exilés du pays dans lequel ils sont nés.
Mais qu'est-ce qui motive cette bifurcation?
Chez les autres, alors au XXe siècle, ce qui a motivé cette bifurcation, ça a été l'exil et les apatrides qui ont été arrachés à leur langue maternelle. Mais pour les, on ne fait jamais, enfin c'est toujours, ça provient souvent d'une douleur. C'est-à-dire que autant la traduction que fait un traducteur d'une œuvre qui lui est proposée, cette traduction va être faite par amour, par curiosité, par intérêt, mais quand on change sa langue, c'est souvent dans la douleur, parce qu'on n'a pas le choix.
Ben Nabokov, par exemple, il a écrit des pages d'adieu à sa langue maternelle, qui était le russe.
Absolument, dans le roman Le Don.
Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il justifie cet abandon? C'est parce qu'il part aux États-Unis?
C'est parce qu'il part aux États-Unis et qu'il sait qu'il n'aura plus accès pendant... Enfin, quand il part aux États-Unis, en tout cas, il sait qu'il ne reviendra pas en Russie de sitôt. Et continuer à écrire en russe en exil était une tâche non pas impossible, mais vaine, puisqu'il n'y avait pas d'éditeur pour publier ses travaux en russe en territoire américain, puisque ses lecteurs auraient été assez peu nombreux. Et cet exil est un exil qui a été ça a été une aliénation peut-être, mais une aliénation très créatrice. Puisqu'il a, d'ailleurs, il utilise, les personnages des différents romans de Nabokov sont souvent des avatars de Nabokov lui-même. Et dans le roman Pnine, par exemple, il a cette image d'un professeur des universités, un professeur russe, qui, en arrivant aux États-Unis, se fait refaire les dents, il se fait refaire la mâchoire en se faisant poser un dentier très américain, très blanc, très brillant. Et cette nouvelle mâchoire lui meurtrit les gencives à chaque fois qu'il essaye de parler anglais, du coup. Enfin, toutes les langues, mais l'anglais étant sa nouvelle langue. Et il dit, j'avais l'impression de parler avec la mâchoire d'un étranger. Eh bien oui, c'était la langue qui était désormais bloquée par un enclos étranger.
Alors en France, on a le cas de Sioran,
oui,
qui écrit « Abandonner sa langue, c'est le plus grand accident qui puisse arriver à un écrivain. La langue française, écrit-il, ne me convient pas, il me faut une langue sauvage, une langue d'ivrogne. Le français était pour moi comme une camisole de force, les mots sont devenus indépendants de moi. »
Elle est belle, cette
phrase. Alors comment est-ce qu'on peut écrire dans une langue dont les mots sont devenus indépendants de l'auteur ?
Comment peut-on écrire dans une... Répétez, pardon.
Comment est-ce qu'on peut écrire dans une langue nouvelle, en l'occurrence, dont les mots sont devenus indépendants de l'auteur? Les mots que l'auteur ne reconnaît pas ou ne s'approprie pas.
Eh bien, il faut être un virtuose. Il faut avoir une disposition, il faut être prédisposé à la création littéraire dans toutes ses formes. Je pense que ça tient du génie, oui. Le fait de devenir virtuose dans une langue dans laquelle on n'a pas grandi, d'une langue qui n'est pas notre, comme disait Thomas Mann, notre source vive, ça relève du miracle. je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'impressionne.
Maria Rouchkova, vous êtes agent littéraire, je l'ai dit, et quand on voit comme ça un écrivain qui change de langue, volontairement ou non, est-ce qu'on observe une modification de sa façon de penser, de voir le monde? Autrement dit, est-ce qu'on doit associer à chaque langue c'est souvent ce qu'on dit, en tout cas une vision du monde,
ouais,
qui est déterminée par des a priori que la langue transporte? Par exemple, dans le cas de Nabokov, est-ce qu'il a écrit des choses très différentes aux États-Unis de ce qu'il écrivait en Russie?
On ne pourra jamais le savoir. On ne pourra jamais le savoir, mais ce qui est intéressant, c'est que Nabokov a traduit lui-même vers le russe les romans qu'il a écrits en anglais. Lolita, par exemple.
Mais ça n'a pas été simple.
Ça n'a pas été simple, puisqu'il a... On pourrait croire que s'auto-traduire est la chose la plus simple qui soit, puisqu'après tout, nous sommes, enfin, l'écrivain dit exophone est le créateur, original. Donc, qu'il s'exprime dans une langue ou une autre devrait revenir au même. Et pourtant, Nabokov utilise cette phrase assez intéressante. Il dit, quand j'ai dû traduire Lolita vers le russe, ce fut une entreprise épouvantable, car c'était comme examiner ses propres entrailles et passer les mains dedans pour les passer comme un gant. C'était une image épouvantable, et j'ai découvert que le dictionnaire n'était pas un ami, mais un ennemi, et c'était comme si j'étais devant la porte de chez moi, et c'est une porte fermée en ayant oublié mes clés pour y rentrer.
Voilà. La porte du russe.
La porte du russe, voilà. Il n'arrivait plus à retrouver celui qu'il était lorsqu'il écrivait en russe. Alors évidemment, il a traduit le roman malgré tout. Ça lui a pris du temps, mais il l'a fait. Et un écrivain qui s'auto-traduit n'est pas forcément un écrivain qui est soudainement réuni avec lui-même. C'est parfois ça peut accentuer le sentiment de la déchirure qui a eu lieu lors de l'exil.
Donc il peut être infidèle à l'œuvre originale.
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs sa plus grande liberté, c'est de pouvoir être fidèle et infidèle à ce qu'il a dit dans la première version, c'est de pouvoir être fidèle au non-dit également et de pouvoir retravailler son texte en permanence. Et celle qui dit qu'il y avait un autre écrivain russe qui s'est auto-traduit, c'est Elsa Triolet. Elsa Triolet, qui est d'ailleurs la première femme à avoir remporté le Goncourt en 44 ou en 45.
45.
Je ne sais plus, en 45. Elle dit, voilà, mon bilinguisme, c'est comme une maladie. Je suis atteinte de bilinguisme, tout comme on pourrait dire que je suis bigame. Mais si je suis bigame, quelle est celle que je trompe? Ou quel est celui que je trompe? Parce qu'elle a deux langues.
Vous avec cinq?
Moi avec cinq, c'est une folie. Et qui est celui que je trompe? Et elle dit, voilà, je peux traduire ma pensée en deux langues, j'ai donc un bidestin, ou plutôt un demi-destin, puisque tout mon destin est un destin traduit. Donc elle est bilingue, doublement bilingue plutôt que bilingue. Et dans son roman La mise en mots, Elsa Triolet dit que pour les bilingues, se traduire devrait être facile, et pourtant, on se regarde dans un miroir, on s'y cherche et on ne s'y reconnaît plus. Voilà, donc les œuvres qui sont auto-traduites sont certes de nouveaux originaux, mais ce ne sont... c'est vertigineux d'ailleurs, parce que c'est très rare de pouvoir être, de créer deux originaux autrement identiques. Et on se demande, surtout dans le cas d'auteurs comme Beckett par exemple, laquelle des deux versions est la première, la version dite originale. Et ne considérer que l'original, c'est oublier qu'une autre version lui a succédé, et ne considérer que sa traduction, c'est oublier qu'une première version a existé. Et donc aucune des deux versions ne peut être prise individuellement. C'est Brodsky qui disait « L'original est toujours la somme de ses traductions ». Voilà, donc c'est une façon de regarder ce problème.
Est-ce qu'il est possible, et je vous pose la question parce que vous êtes polyglotte, est-ce qu'il est possible de penser la même chose, exactement la même chose, dans deux langues différentes, qu'on maîtrise parfaitement?
Impossible.
D'accord, la langue que vous choisissez détermine
Toujours.
Pour modifier un peu la pensée.
Toujours, parce que ce que je pense s'enrichit, enfin, s'enrichit, c'est beaucoup dire. Ce que je pense, en tout cas, se teinte des connotations dont je ne prends conscience qu'à partir du point de vue éloigné de l'autre langue. Donc je sais que ce que je pense n'est jamais innocent, ou du moins jamais neutre, jamais pur. Et c'est toujours un va-et-vient. C'est un va-et-vient qui éclaire des choix intellectuels, émotionnels. Donc c'est une schizophrénie agréable, mais difficile certains jours.
Mais ça veut dire que les langues, on a raison de dire qu'elles redécoupent le réel, chacune à sa façon.
Chacune à leur façon, oui.
Et qu'elles ont, même si elles peuvent être traduites les unes dans les autres, elles gardent une singularité qu'on ne peut pas traduire.
Oui, et puis avant, je pense qu'une langue, avant de renvoyer une certaine vision du monde, ce qui peut par ailleurs être vrai, je pense que chaque langue contient une vision de soi et de l'autre. Avant de parler du monde, on peut aussi déjà parler de celui qui la parle, du locuteur. Et cette langue, chaque langue a une certaine sensibilité ou une certaine image. Et puis même, chaque langue a un corps. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est ce corps, c'est cette fermeté de chaque langue qui est à la source de cette résistance et qui fait que l'on ne parvient pas toujours au bout de ce que l'on a voulu dire ou de ce que l'on veut dire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que toute langue ne peut être qu'elle-même. Voilà.
Maïa Raouchkova, d'habitude on ne passe pas de musique dans cette émission, contrairement à ce qu'on faisait autrefois. Mais on va faire une exception à cette règle. Vous avez demandé à ce qu'on entende un petit peu de jazz polonais.
Oui.
Et peut-être que ça servira à alimenter notre conversation d'après. Raouchkova, vous avez choisi ce morceau, je vous laisse dire le titre en polonais.
Zabierz Smutek. Et c'est une chanson à laquelle j'ai pensé, car on pense peu au polonais comme une langue suffisamment chuintante et suffisamment douce pour une musique comme le jazz. Et parce que voilà, parce qu'il y a la vision du monde contenue dans chaque langue, mais il y a aussi la vision que nous avons des langues telles qu'elles sont. Et puis parce que j'ai longtemps mal compris cette chanson, c'est-à-dire que pendant les langues slaves sont toutes plus ou moins unifiées par un vocabulaire très similaire, une certaine grammaire, un système de déclinaison très similaire d'une langue slave à l'autre. Mais parfois il y a des faux amis, et ce sont des faux amis qui sont sacrément mauvais, puisque là dans le refrain. Elle dit « Zapomni omnia » et pendant très longtemps j'ai cru que « Zapomni omnia » voulait dire voilà, « Souviens-toi de moi ». Et parce qu'il y a des langues slaves où ce verbe veut dire « se souvenir ». Et puis en regardant la traduction avant l'émission pour vérifier que j'avais bien compris, je me suis rendu compte qu'en fait elle supplie, la chanteuse supplie celui à qui elle adresse la chanson de l'oublier et de passer à autre chose. Parce qu'en polonais, « Zapomni » veut dire « oublier » et non pas « se souvenir ». Voilà.
Oui, mais écrire une chanson, c'est une bonne façon de ne pas être oublié.
Exactement. Voilà.
Est-ce qu'on salive plus dans certaines langues que dans d'autres ?
Oui, Oui, chaque langue a un corps, mais le locuteur a aussi un corps différent quand il parle et quand il habite une certaine langue. Donc il y a des langues dans lesquelles on doit prendre de plus grandes inspirations. Je pense à l'allemand, par exemple, qui où les phrases sont plus longues, où le verbe arrive uniquement à la fin de la phrase. Et donc le bol d'air que l'on doit prendre avant de dire une phrase en allemand est plus important. Il y a des langues qui sont plus chuintantes, plus douces, plus humide, comme le russe, comme le tchèque, oui.
Parce que pour, il faut de la salive.
Il faut de la salive, oui. Il faut pour rouler un R, il faut avoir de la salive. Et puis il y a des langues qui nécessitent que l'on se tienne plus droit, quoi. Que des langues qui accompagnent une certaine gestuelle, ou du moins une gestuelle qui accompagne certaines langues, oui.
L'italien, par exemple.
L'italien, par exemple, oui. Donc c'est comme une. Oui, chaque langue, c'est comme une même partition jouée par des musiciens différents.
Je reviens à ce que vous disiez avant qu'on écoute ce morceau de musique, Maïa Roujkova. Vous parliez du fait que les langues, finalement, découpent le réel d'une certaine façon. Il y a cette phrase d'Umberto Eco à propos de la traduction qui dit « Il ne faut pas faire du mot à mot, mais du monde à monde ».
Oui, il faut faire du monde à monde et non pas du mot à mot. Oui, parce qu'il faut faire du monde à monde parce qu'il y a toujours quelque chose qui se perd dans le passage d'une langue à l'autre, que l'on soit traducteur ou que l'on soit polyglotte, c'est la même chose. Et c'est ce qui se perd qui est intéressant. Mais cette perte n'invalide pas ou ne détruit pas le message pour autant. Le sens peut toujours être sauvé. Mais il y a toujours une perte, et en parlant justement des visions du monde que l'on mentionnait tout à l'heure, il y a aussi des aveuglements qui peuvent être contenus dans certaines langues, des choses que des langues ne voient pas. Et ça, c'est des choses qui peuvent se perdre c'est une sorte d'impôt prélevé lors du passage d'une langue à l'autre.
C'est-à-dire qu'il y a de la perte et il y a du gain aussi.
Il y a de la perte et il y a du gain, absolument. Et c'est je sais plus, oui, je crois que c'est Wittgenstein qui disait, voilà, les limites de mon monde sont celles de mon vocabulaire, ou les limites de mon vocabulaire sont celles de mon monde. Alors, est-ce qu'on a des fenêtres plus grandes quand on a, ou des frontières plus éloignées quand on parle plus d'une langue? Ça, je ne le sais pas, mais le fait de passer d'une langue à l'autre peut permettre, c'est Heinz Wissmann qui a cette très belle phrase, il dit, ça permet d'échapper au confinement de l'évidence. Parce que ce que l'on dit ne se réduit pas toujours à ce dont on se sert pour le dire. Je ne sais pas si je suis très claire, mais il y a toujours un monde de dénotation et de connotation quand on s'exprime. Et donc les images auxquelles on fait appel quand on parle une langue sont des images que l'on est parfois les seuls à voir quand on s'exprime, mais qui, lorsque l'on doit traduire, peuvent se perdre. Voilà.
Et donc, ça rejoint un peu ce que dit Wittgenstein, qui dit « penser, c'est être en lutte avec la langue ». C'est se bagarrer avec les mots pour les sortir des habitudes dans lesquelles ils nous entraînent.
Oui, et d'ailleurs, les auteurs se bagarrent aussi avec leurs traducteurs. C'est-à-dire que
à condition de connaître la langue finale.
À condition de connaître la langue finale, évidemment. Évidemment. Et oui, il faut se bagarrer parce que la langue ne colle pas toujours au réel. On découvre des sens cachés quand on passe d'une langue à l'autre. Et donc, la deuxième langue ou la troisième langue peut aider à déconstruire ou à déniaiser certaines visions que l'on a des choses. Et Kafka a une très belle phrase pour cela. Il dit, pour exprimer cette tension, il dit, c'est comme si l'os frontal me barrait le chemin de ma pensée. Je m'ensanglante le front contre mon propre front. Alors évidemment, c'est Kafka, donc c'est très sombre, mais c'est une très belle image.
Mais est-ce que l'auteur doit avoir une autorité sur celui qui traduit? Je pense à cela parce que dans le livre de Paul Valéry que je citais tout à l'heure, il y a cette phrase incroyable, il dit « il n'y a pas de vrai sens d'un texte, il n'y a pas d'autorité de l'auteur. Quoi qu'il ait voulu dire, il a écrit ce qu'il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon ses moyens. Il n'est pas sûr que le constructeur, l'auteur, en use mieux qu'un autre. »
Oui.
Donc le droit de regard de l'auteur sur les traductions devrait être limité. Le texte ne lui appartient plus.
Ne lui appartient plus, oui, parce que toute traduction, avant d'être une traduction, c'est une lecture. C'est une prise de position du traducteur en tant que lecteur sur le texte. Et alors évidemment, l'autorité sur un texte parfois arrive à expiration avec la durée du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'un auteur disparaît, et bien 70 ans après sa mort, les traductions peuvent être mises en concurrence les unes avec les autres. Et le besoin, ce que dit Paul Valéry, peut expliquer le besoin de retraduire. En passant devant une librairie tout à l'heure, en venant au studio, j'ai vu qu'il y avait plusieurs ouvrages en vitrine qui étaient des retraductions. Alors les libraires français, enfin les maisons d'édition françaises adorent les bandeaux, donc il y avait des bandeaux rouges pour signaler l'arrivée de nouvelles traductions. Alors c'est un argument marketing certes, mais le besoin de retraduire est intéressant parce qu'il suggère que non seulement qu'un texte n'a jamais fini de dire ce qu'il a à nous dire, mais que si un texte est retraduit, c'est parce qu'il a un noyau intraduisible auquel on souhaite s'attaquer encore et encore pour révéler ce que l'on a vu ou pas vu lors d'une première traduction. Alors certains sociologues de la traduction vous disent qu'il faut retraduire parce que toute traduction est toujours le fruit d'un biais historique, idéologique, militant, et que la retraduction permet de retrouver une certaine forme de vérité.
Pour trouver un autre biais.
Pour retrouver un autre biais, exactement. Et les Allemands, d'ailleurs, ont un très joli terme pour parler de retraduction. Ils utilisent le mot de Rückübersetzung, qui veut dire rétro-traduction. Parce que toute retraduction appelle forcément un retour à l'original. Et donc il faudrait faire une étude.
Mais j'imagine qu'on a fait l'expérience, ouais. On donne un texte à deux traducteurs différents, à une époque donnée, et on compare les versions produites.
Et on compare les versions produites, absolument. Et on découvre que c'est un exercice qui se fait fréquemment dans les universités où l'on enseigne la traduction, dans les ateliers de traduction. Un texte peut révéler des choses totalement différentes selon que le traducteur, selon l'âge du traducteur ou de la traductrice, son sexe, oui, bien sûr.
Vous parliez tout à l'heure de l'affect lié aux langues, et je crois savoir que Kafka considérait qu'il était impossible d'aimer sa mère comme une mère juive quand on l'appelle Mutter, par le mot allemand.
Oui, Kafka n'était pas isolé géographiquement de son lieu de naissance, mais il se sentait exilé au sein des langues, c'est-à-dire que c'était un pragois de langue allemande, juif, et donc insituable pour cette époque. Il était minoritaire parce que juif, et minoritaire en tant que tchèque pour les Allemands, et en tant que germanophone pour les Tchèques. Donc il a grandi au milieu du tchèque, de l'allemand, du yiddish, de l'hébreu, mais il ne se sentait chez lui dans aucune langue. Et donc il a choisi l'allemand en désespoir de cause, et il dit je me sers de cette langue allemande parce que je n'en ai pas d'autre, mais elle n'est pas à moi. Et ce voile allemand, c'est un voile qui lui a une sorte de filtre froid, et il écrit cette phrase dans son journal, il dit voilà, hier m'est venu à l'esprit que si je n'ai pas toujours aimé ma mère comme elle l'aurait mérité, et comme j'en étais capable, c'est parce que la langue allemande m'en a empêché.
Ça fait un joli bouc émissaire quand même.
La mère juive n'est pas une Mutter, la femme appelée Mutter n'est pas seulement ridicule, mais elle m'est étrangère. Voilà, Kafka était le contemporain de Freud. Il faut le mentionner parce qu'ils évoluaient dans des bulles linguistiques et historiques similaires. Et toute l'œuvre de Kafka porte en elle cette déchirure entre les langues. Et Kafka parlait de quatre impossibilités. L'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire, l'impossibilité d'écrire en allemand et l'impossibilité d'écrire en tchèque.
Il cherchait les ennuis quand même.
Il cherchait les ennuis. Et ce n'est que vers la fin de sa vie, en s'intéressant au sionisme, en effectuant un retour au texte et au judaïsme, qu'il se met à fréquenter des comédiens ukrainiens qui se produisaient en yiddish. Et le yiddish était une langue qu'il n'avait jamais apprise plus tôt, mais il se surprend à comprendre énormément de phrases en yiddish, parce que le yiddish contenait des mots du slavon, de l'allemand, de l'hébreu, et il va voir une des comédiennes à la fin d'une de ses représentations, et elle lui dit, mais vous savez, monsieur Kafka, je parle toutes les langues, mais en yiddish. Voilà. Et là, c'est une révélation pour Kafka qui se dit, voilà, une langue peut émaner d'un peuple. Voilà. Un peuple auquel je peux même appartenir.
Alors, vous citez cette phrase de Kafka, je me sers de cette langue parce que je n'en ai pas d'autre, mais elle n'est pas à moi. 100 ans plus tard, Jacques Derrida dit, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne.
Oui.
Est-ce que c'est la même chose?
C'est la même chose. Derrida était tout aussi insituable, linguistiquement parlant, que Kafka, puisque Derrida avait vécu une triple dissociation en tant que juif français en Algérie dans les années 40, puisqu'il n'avait aucun accès à la langue arabe ou berbère, qui était même en Algérie considérée pour les Français comme une langue étrangère, aucun accès à l'hébreu, ou même au yiddish, et il n'avait pas d'accès direct aux lettres de noblesse du français, puisque cette langue-là trouvait ses lettres de noblesse ailleurs, c'est-à-dire en métropole. Et Derrida, dans son essai qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre », explique que, il dit « Ma mère ne parlait pas plus que moi une langue que l'on peut dire pleinement maternelle ». Et donc, il est intéressant de comparer comment Kafka et Derrida ont pris leur vengeance sur cette langue marâtre. Kafka a eu toute sa vie un style très dépouillé, très, très sobre, sans fioritures. Et Derrida a eu un style plus compliqué.
Disons-le comme ça. Est-ce qu'on peut traduire une œuvre et bien la traduire sans bien parler la langue qu'on traduit? Sans bien la parler oralement, je veux dire.
Non, impossible. Non, parce que
Moi, j'ai rencontré un grand traducteur,
oui,
de l'italien vers autre chose, qui était incapable de demander ou d'acheter un billet d'entrée pour un musée en italien. Et pourtant, il avait traduit des livres en italien.
Et pourtant, il avait traduit. Oui, mais c'est comme Gide. C'est Julien Green qui raconte cette anecdote dans sa biographie qui s'appelle La langue et son double. Il raconte une anecdote de Gide et lui se baladant à Londres. Et Gide, qui pourtant était traducteur de Shakespeare et de nombreux auteurs et de Conrad, Gide est incapable de demander son chemin. Oui, il se perd dans les rues de Mayfair et il est incapable de retrouver son chemin en demandant tout seul comme un grand. Comment retrouver son point de départ. Et je pense que il doit être difficile de traduire quand on ne connaît pas les sonorités, la petite musique des langues, l'oralité d'une langue. C'est pas impossible, mais c'est compliqué.
Mais est-ce qu'il y a des mots qui sont complètement intraduisibles? Par exemple, le mot sous-entendu, dites-vous, n'est pas traduisible dans une autre langue. Il n'y a qu'en français.
Oui, les traductions littérales de sous-entendu n'existent pas. Et très souvent, le mot sous-entendu est traduit en français dans les autres langues. Donc le mot sous-entendu n'existe même pas en allemand.
Mais ça dit quoi de la langue française? Qu'est-ce qu'elle a de spécial qui lui permet de donner un sens à ce mot qui n'en a pas dans d'autres langues?
Eh bien, c'est la même raison qui explique que la langue française, oui, elle possède des registres et des niveaux beaucoup plus doux, beaucoup plus ambigu. Et c'est Georges-Arthur Goldschmidt, le traducteur de Kafka, qui dit la langue française est une langue c'est la langue du soir, parce que c'est une langue qui autorise toutes les subtilités. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la langue française qui a été choisie comme la langue de la diplomatie à une certaine époque, et non pas l'allemand.
Et la langue du matin, ce serait quoi alors?
L'allemand, puisque l'allemand est une langue qui peut se... C'est une langue avec laquelle on est équipé pour tout, puisque l'allemand est ainsi fait que l'on peut créer des mots à l'infini en combinant des éléments et collés au plus près du réel. Et donc, c'est une langue du matin. Voilà, c'est
le midi.
Bonne question.
Est-ce qu'il y a des mots complètement intraduisibles? La vie est ailleurs, qui est un roman célèbre de Kundera. Comment est-ce qu'on l'a traduit en russe?
De la façon la plus russe qui soit. Par la vie n'est pas là. Parce que l'expression de l'ailleurs en russe est...
C'est l'absence.
Difficile. Oui, c'est l'absence. Et donc la vie est ailleurs a été traduit en russe par la vie n'est pas là.
En langue originale, comment est-ce qu'on dit la vie est ailleurs? En tchèque?
Život je jinde.
Et en russe, la vie n'est pas là?
Жизнь здесь.
C'est presque pareil à l'oreille. Enfin, quand on parle aucune des deux langues, ça se ressemble. Qui a traduit le procès de Kafka?
En quelle langue?
En italien.
C'est Primo Levi.
Et est-ce que ça change quelque chose à la façon de le lire?
Ça change sûrement quelque chose à la façon de l'écrire, enfin de le traduire. N'ayant pas lu la traduction italienne, car je ne suis pas italophone, je ne sais pas, mais dans un entretien, dans une compilation d'entretiens de Primo Levi, il disait qu'il avait eu de la pitié pour ses lecteurs en traduisant le procès de Kafka. Et qu'il avait ressenti le besoin d'adoucir certains, de prendre quelques libertés avec la traduction pour l'adoucir et rendre le livre peut-être moins sanglant, moins, ouais.
Mais à vous écouter, Maya Yarouchkova, on a l'impression qu'il y a, en réponse à la question posée pour l'émission, est-ce qu'on pense avec sa langue ou est-ce qu'on ne peut penser qu'avec sa langue, on a l'impression qu'il y a une intrication entre la pensée et le langage. Et ça renvoie encore à Paul Valéry qui disait « Peu importe finalement que la pensée chez l'homme ait précédé le langage, que dans le processus d'expression hiérarchiquement l'idée devance le mot, l'important est qu'ils sont chez l'adulte si imbriqués, qu'ils se sont tellement épaulés, renforcés au cours de leur croissance respective, qu'ils sont devenus inséparables, pas de pensée de qualité transmissible sans le véhicule approprié, sans le langage de qualité et réciproquement. » Donc ça milite pour dire qu'on ne peut pas séparer la pensée du fait qu'elle est portée ou impulsée par une langue particulière.
Par une langue particulière. Non, il faut toujours que la pensée s'accroche à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un langage. Alors c'est un langage qui peut avoir toutes sortes d'accoutrements et de faiblesses et d'aveuglements. Mais c'est cette langue-là, oui, qui est le véhicule de la pensée. Et ça me fait d'ailleurs penser au journal intime de d'Anna Arendt, qu'elle a appelé d'ailleurs le journal de pensée, et c'est un journal qu'elle a écrit en plusieurs langues. Voilà, à différents moments de sa vie, voilà, pour penser, il fallait qu'elle se repose tantôt sur le grec, tantôt sur le français, tantôt sur l'anglais, et puis tantôt sur l'allemand. Et dans ce journal, elle confie qu'on se porte tellement mieux quand on ne parle qu'une seule langue. Et elle dit ça parce qu'elle doit revoir toutes les traductions de ses œuvres en anglais vers l'allemand et la traductrice.
Mais est-ce que c'est le seul argument?
Est-ce que c'est le seul argument?
Oui, on ne parle qu'une langue, donc on ne peut pas regarder les traductions, donc on travaille moins.
Exactement, et donc on travaille moins. Et
mais est-ce qu'on se sent plus mal intellectuellement?
Plus mal?
Oui, c'est pas ce qu'elle dit.
Non, elle disait ça presque avec humour, pour dire, voilà, si je n'avais pas vu les horribles traductions qui ont été faites de mon travail, je me porterais sans doute mieux. Mais Anna Arendt, qui s'opposait à Heidegger, disait, il faut parler plus d'une langue, car c'est la maîtrise de plus d'une langue qui nous permet d'accéder à l'équivocité chancelante du monde. C'est une très jolie expression pour dire que ne pas être assuré de l'essence des choses est une condition de la philosophie.
Je profite de ce que vous êtes là, Maya Yarouchkova, pour vous demander quel est le sens qu'il faut donner à une phrase de Lacan, que je cite souvent sans la comprendre. Il a écrit « Tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa propre langue pour qu'elle en soit un dialecte. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Aucune idée. Je sais pas.
Bon, en tout cas, on a, je pense, démontré que la réponse à la question posée est oui, non.
Non,
c'est une réponse quantique. Merci d'être venu à Science en question, Maya Yarouchkova. Est-ce qu'on fait des anagrammes dans toutes les langues? On peut, en principe.
Mais
est-ce que l'envie d'en faire est la même en anglais, en allemand, en français, en italien?
Non, il n'y a qu'en français qu'elles peuvent être aussi délicieuses, je pense.
En tout cas, vous avez prononcé d'utiles paroles qui donnent l'espoir de salut. C'est l'anagramme trouvé par Olivier Garcia que je remercie.
Merci.
C'était Science en question par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Bouchamp, à la technique Nasser Moussaoui et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.